puissance technique. Ça s'explique techniquement. La puissance technique de maintenir un fond complètement indéterminé et d'en faire surgir une détermination. Les monstres de Goya, c'est quoi? C'est la détermination en tant qu'elle sort immédiatement d'un indéterminé qui subsiste à travers elle. C'est ce que Blanchot appelle un rapport vrai du déterminé avec l'indéterminé. Un rapport vrai de telle manière que l'indéterminé subsiste à travers la détermination et que la détermination sorte immédiatement de l'indéterminé. La détermination qui sort immédiatement d'un indéterminé qui subsiste sous la détermination, c'est ce qu'on appellera un monstre. Alors bon, eh bien, on a la réponse. Blanchot ne peut pas dire, à mon avis, et inversement. Il peut dire parler, ce n'est pas voir, mais il ne peut pas dire voir, ce n'est pas parler. Car il n'a jamais conçu qu'une forme. Je ne dis pas qu'il est tort. Il n'a jamais conçu qu'une forme, la détermination. Forme de la détermination, c'est-à-dire la parole. Forme de la spontanéité, la parole. Et la parole est en rapport avec l'indéterminé pur. Donc, voir ou bien glissera dans l'indéterminé pur, ou bien ne sera qu'une espèce d'étape préparatoire à l'exercice de la parole. On n'a pas besoin alors de voir la différence avec Foucault, mais elle éclate, on n'a fait que ça. Il suffit de rappeler que pour Foucault, il y a deux formes. La forme du visible, la forme de l'énonçable. Contrairement à Blanchot, Foucault a donné une forme au visible. C'est-à-dire, pour Foucault, vous me direz c'est minuscule. Moi je crois que c'est très important cette différence. Elle n'est pas minuscule. Pour Blanchot, tout passait par un rapport de la détermination et de l'indéterminé pur, pour Foucault, et par là il est kantien et non pas cartésien, tout passe par un rapport de la détermination et du déterminable. Les deux ayant une forme propre, il y a une forme du déterminable, non moins qu'il y a une forme de la détermination. La lumière est la forme du déterminable, tout comme le langage est la forme de la détermination. L'énonçable est une forme, mais le visible est une forme aussi. Dès lors, Foucault lui sera forcé d'ajouter le « et inversement ». Et le « et inversement » n'est pas une petite addition, c'est un remaniement du thème de Blanchot, parler, ce n'est pas voir. Mais, du coup, ça nous entraîne à notre troisième confrontation, parce que si Blanchot n'avait pas risqué le « et inversement », si Foucault fait passer donc la béance, la faille entre deux formes, forme de l'énonçable et forme du visible, forme de la détermination et forme du déterminable, eh bien, ceux qui l'avaient fait avant lui, bizarrement, non pas bizarrement, c'était ceux qui portaient le cinéma jusqu'aux puissances de l'audiovisuel et d'un audiovisuel créateur. Et un audiovisuel créateur allait être non pas un ensemble audiovisuel, mais au contraire, une distribution de l'audio et du visuel de part et d'autre d'une béance. Et je dis, ben c'est ça qui définit le cinéma moderne. Et comme on l'a vu l'année dernière, je résume juste, j'essaie de résumer pour ceux qui n'étaient pas là, ou de reprendre du point de vue, là, parce que ça m'importe beaucoup. Là aussi, je voudrais numéroter. Donc, Première proposition. Qu'est-ce qui se passe dans ces œuvres dont on sait bien qu'elles ne convoquent pas beaucoup de spectateurs, mais qu'en même temps elles sont, c'est elles qui font le vrai cinéma aujourd'hui. Ces œuvres comme celles de Cyberberg, d'Estrobe ou de Marguerite Duras. Qu'est-ce qui frappe immédiatement? C'est que, je dirais, c'est le nouvel usage de la parole. Nouvel usage du parlant. Ce nouvel usage du parlant, il s'insère complètement dans notre problème. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, au moins en apparence, c'est pas très, très compliqué, mais au moins en apparence, parler, c'était faire voir. Et le cinéma est devenu parlant sous cette forme. Le parlant était vraiment une dimension de l'image visuelle. Parler faisait voir. Et d'autre part, parler pouvait ne pas être vu, mais à ce moment-là, c'était la parole hors champ. Or, le hors champ, parole non vue, entendue mais non vue, le hors champ est une dimension de l'espace visuel. Le hors-champ est une dimension de l'espace visuel, puisque c'est le prolongement de l'espace visuel hors du cadre. Alors on ne le voit pas, c'est pas pour ça qu'il n'est pas visuel. On ne le voit pas en fait. Et le hors-champ, il peut se définir que comme ce qui dépasse le cadre visuel. Sous ces deux aspects, je peux dire que le premier parlant dans le cinéma était du type parler, c'est voir. Soit la parole de gens qu'on voit à l'écran, et cette parole nous fait voir quelque chose, soit la parole hors champ, et le hors champ. Et cette parole, la voix off, cette parole hors champ vient meubler le hors champ étant une dimension du visuel. Or, ça ne se passe plus comme ça avec le cinéma dont je parle. C'est une autre formule qui arrive. Quelle va être la formule? C'est que cette fois-ci, il y a une béance entre voir et parler. Comment se présente cette béance cinématographique? La parole raconte une histoire qu'on ne voit pas. La parole raconte une histoire qu'on ne voit pas. L'image visuelle fait voir des lieux qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'histoire. C'est-à-dire des lieux vides d'histoire. Et c'est du court-circuit, c'est un véritable court-circuit, entre cette histoire qu'on ne voit pas et ce vu qui n'a pas d'histoire, ce vu vide, que va sortir une espèce d'émotion et de création très étonnante. Quel serait le premier? Il semble bien... Si je suis, et je crois que si je suis, on pourrait dire qu'on peut toujours chercher chez les cinéastes d'avant-guerre et qui ont approché ça, ou peut-être que c'était là, est-ce que chez Mankiewicz, il y a quelque chose déjà de ce type. C'est possible. Le fait est que ça ne pouvait pas être isolé à ce moment-là. Je veux dire, ce que je dis, on ne pouvait pas le dire avant la guerre. Pourquoi? Ça n'atteignait pas notre seuil de perception, même si des gens le faisaient. Ça n'atteignait pas le seuil de perception. Encore maintenant, quand on se trouve devant un film de Duras ou devant un film de Cyberberg ou d'Estrobe, nos habitudes perceptives sont étrangement bouleversées. Si bien que même si un auteur comme Mankiewicz s'en approchait, je crois que ça ne pouvait pas apparaître, sauf sous la forme d'une espèce de trouble. Qu'est-ce que c'est cet usage de la parole, tout ça. Mais on n'aurait pas pu le dire comme je le dis. pas du tout à cause de mon mérite, parce que les conditions n'étaient pas encore là. Alors, mais sans doute le premier, en tout cas, d'après je suis Noël Birch, c'est Ozu. Tout est venu de là-bas. C'est Ozu. Et pourtant, Ozu, il arrive au parlant très tard, parce qu'il n'en a pas besoin. Alors lui, c'est parfait. Comme il n'en a aucun besoin, il n'est pas pressé d'y arriver. C'est vers, je ne sais plus la date exacte, c'est vers 30-31 qu'il fait ses premiers films en parlant. Ozu. Mais Birch, Noël Birch, qui a écrit de très belles pages sur Ozu, a une formule tout à fait belle, je trouve, tout à fait bonne et exacte. Il dit, c'est avec Ozu qu'apparaît la disjonction. La disjonction entre un événement parlé et une image vide d'événement. Le type parle, raconte un événement, généralement d'ailleurs insignifiant, et dans un espace vide, où il y a un personnage hors champ auquel il parle, et lui il parle tout seul là, dans un espace vide. Disjonction entre l'événement parlé et l'image vide d'événement. C'est la même chose que disjonction entre une histoire qu'on ne voit pas et un lieu vide d'histoire. Je cite rapidement Cyberberg. Et je prends les formes les plus rudimentaires, les plus claires de ce procédé. Parce que évidemment, quand ça se complique, ça fait de grands chefs-d'œuvre, mais c'est plus difficile. Par exemple, dans Parsifal, la formule serait très très complexe. Mais l'effet est très concret, lui. Dans Le cuisinier de l'oubli, c'est tout simple. Vous avez des espaces vides, les châteaux du roi. Les châteaux du roi de Bavière, maintenant, espace vide. Et la parole, c'est quoi? C'est le type qui promène les touristes et le cuisinier qui rapporte ce que faisait Ludwig dans ses pièces quand elles n'étaient pas vides. Vous direz pourquoi passer par ce procédé? Ça rend tout abstrait étrangement. Ça rend tout concret. Remarquez que Claude Lanzmann, dans son film, il a repris le procédé commun à Cyberberg, à Straub. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de faire parler. En effet, ça évite les reconstitutions qui sont très pénibles. Ou ça évite les images d'archives qui ne sont pas meilleures. Vous voyez qu'il y a... D'un côté, il fera parler les gens sur la déportation des Juifs, et d'un autre côté, il montrera les espaces vides, les espaces aujourd'hui vides. Il racontera une histoire qu'on ne voit pas, aucune image d'archive. Et il fera voir des lieux vides d'histoire. C'est mot à mot la technique Straub, Cyberberg ou Marguerite Duras. Il y a une faille entre ce qui est dit et ce qui est vu. Parler, ce n'est pas voir. Et si j'en reste aux formes les plus rudimentaires, je dis c'est la formule la plus simple de Fortini-Cani chez Straub. D'un côté, la voix de Fortini qui lit ses pages, et de l'autre côté, les paysages vides auxquels les pages ne se rapportent qu'indirectement. À propos d'un de leurs films, un autre film, les Straub parleront de la grande fissure tellurique. La grande fissure tellurique, là, cette espèce de béance qui va distribuer la parole et la vision. Dans le cas de Marguerite Duras, la répartition des voix et du vu atteint une espèce de sommet dans India Song. Pour ceux qui ont vu India Song, vous vous rappelez que le procédé très vivant consiste à, d'une part, faire voir un bal, mais un bal muet. Est-ce que les gens ne parlent pas? Si, les gens parlent, mais ils n'ouvrent pas la bouche. Ils n'ouvrent pas la bouche, c'est-à-dire que ce qu'ils disent sera entendu de l'autre côté de la béance. Alors, de l'autre côté, il y a quoi? Il y a un mélange de voix, dont les unes sont dites voix intemporelles, par Marguerite Duras, les autres sont dites voix d'invités, c'est-à-dire des gens présents au bal, mais qui n'ont pas ouvert la bouche tant qu'on les voyait. Bon. Non, je ne veux pas, ce serait trop long. Tout ce cinéma est sous la loi de la disjonction, du visuel et du sonore. Bien, alors, ce que je demande, c'est dans l'édition de La femme du Gange, Marguerite Duras fait une courte préface où elle explique ça très bien. Elle dit, ce sont deux films, le film des voix et le film de la vue. Ce sont deux films, et alors là, elle fait de la provocation typique. Elle dit, ces deux films n'ont strictement aucun rapport. Rien à voir. Bien plus, s'ils se touchent, tout meurt. La jonction les ferait pourrir. Ce qui permet évidemment à Mitry de dire, c'est n'importe quoi sur n'importe quoi. Alors, si l'on consent à ce que ce n'est pas n'importe quoi sur n'importe quoi, qu'est-ce que c'est? Il est bien évident qu'il ne suffit pas de... Quoi qu'il y ait un film très intéressant de Eustache qui va tout à fait en sens, vous savez, présentation de photos, visuels et commentaires. Et plus le commentaire se développe, plus il décolle de ce que montrent les photos. Au point que, là aussi c'est de la provoque. C'est bien fait. Au point que on se dit, mais enfin, de quoi il parle, tout ça, ça n'a aucun rapport avec la photo, etc. Et l'écart augmente entre le dit et le vu. Bien. Et pourquoi faire tout ça? Il faut bien que ce ne soit pas n'importe quoi sur n'importe quoi, sinon ça ne dépasserait pas alors un exercice surréaliste un peu faible. Eh bien, en effet, reprenons l'exemple de Marguerite Duras, de India Song. Qu'est-ce qu'il y a de commun, s'il y a quelque chose de commun, entre parler et voir? Je ne dis pas une forme commune, je dis un quelque chose de commun. Est-ce qu'il y a un quelque chose de commun entre parler et voir? Eh bien oui. Le bal vu vaut pour un autre bal qu'on ne voit pas. Celui où c'est noué, un enlèvement, et où est né un amour fou. Donc le bal présent glacé vaut pour cet autre bal qu'on ne verra pas. Et les voix de l'autre côté de l'image, les voix nous parle de ce vieux bal qu'on ne verra pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Est-ce que c'est à faire comme ça? C'est que dans la mesure où il a vu naître l'amour fou, il n'est plus du domaine du visible. L'amour fou est au-delà de ce qu'on peut voir. Bon. Mais alors, on touche à quelque chose de très important pour ce cinéma. C'est un cycle très curieux. Je dirais, ce que l'image visuelle enfouit, L'image visuelle enfouit quelque chose. L'image visuelle recouvre quelque chose. L'image visuelle vaut par ce qu'il y a en dessous. C'est la limite supérieure de la vue. La vue qui saisit ce qui n'est pas visible. Sous la terre, je saisirai les morts. Constant chez les Straubes. Sous le bal, je saisirai l'autre bal enfoui. C'est l'exercice supérieur de la vue. Point. L'image visuelle vaut toujours par ce qu'elle recouvre. On a vu l'année dernière les Straubes faire quelques minutes de cinéma en plaçant des gens sur des collines, leur faisant réciter un poème de Mallarmé célèbre. Et sous ces collines, il y a les cadavres des communards. Mais on ne verra pas ces cadavres. La terre vaut par ce qu'elle enfouit. Constant chez les Straubes. C'est eux qui vont le plus loin dans cette espèce de stratigraphie. Tout comme dirait Foucault, d'archéologie. L'image visuelle est archéologique. Bon, l'image visuelle n'a comme sens que d'enfoncer quelque chose, qu'elle enfouit. Et l'image parlante a comme sens de faire monter quelque chose. Qui ne peut être que parler, puisque enfoui pour la vue. L'événement. Le même événement est enfoui sous la terre, libéré dans la parole. C'est pas n'importe quoi sur n'importe quoi. C'est le même événement qui n'a d'existence que biface. Une fois libéré par la parole, une fois enfoui sous la terre. Si bien qu'il y a un cycle. Plus la terre, c'est le cycle qui me paraît frappant, c'est le cycle des Straubes. Une espèce de cycle cosmique, quoi. Où plus la terre enfouit et dérobe à notre vue l'événement, nous ne voyons que des espaces vides. Plus la terre enfouit l'événement, plus la parole le libère. En d'autres termes, la parole est aérienne et la vue est souterraine. Donc c'est par-dessus leur faille, par-dessus leur béance, par-dessus leur hétérogénéité radicale que s'établira le rapport entre parler et voir. C'est par-dessus le non-rapport, et c'est le non-rapport de parler et de voir qui va d'une certaine manière susciter le rapport entre un voir de plus en plus enfoui sous la terre et une parole de plus en plus aérienne. D'où l'importance pour moi, là, dans ce que je disais tout à l'heure, l'importance... quand il a eu un rapport direct avec le cinéma, avec le film que Alliot tirait du cap Pierre-Rivière, comment est-ce que, bien sûr, il n'avait pas la possibilité d'imposer un rapport entre le visuel et... Mais c'est évident qu'un cas comme celui de Pierre-Rivière, comprenez, aurait favorisé des recherches de ce genre. Puisque... il y avait le cahier, encore une fois, du gamin, et l'événement, ce qu'il avait fait, c'est-à-dire cette espèce de liquidation, d'assassinat de toute sa famille qu'il avait fait. Pendant quel rapport ? le visible là aussi. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'enfoncer sous la terre le visible pour que la parole prenne un sens aérien? Et enfoncer sous la terre, ça ne veut pas dire que l'image devient quelconque. Les images de Straub, les images de Cyberberg sont des images prodigieuses. L'espace vide, ce n'est pas un espace auquel manque quelque chose. L'espace vide des vêtements, que ce soit l'espace d'Ozou, l'espace des Straub, l'espace de Cyberberg, l'espace de Duras, ce sont des espaces extraordinairement vivants. Mais c'est vraiment la vie des choses. Une espèce de vie non organique. La vie des choses, la vie de la Terre en tant qu'elle recouvre. C'est ça la Terre. La Terre, c'est ce qui recouvre. Creusez la Terre. Là, vous avez le visible. Et vous n'avez pas le visible quand vous avez déterré la chose. Vous avez le visible lorsque vous voyez la Terre comme recouvrant quelque chose. Qu'est-ce qu'elle recouvre? Eh bien, ce qu'elle recouvre, c'est ce que la parole de l'autre côté dit. De l'autre côté. Et c'est parce qu'il y a deux côtés qu'il y a le cycle. Où ce qui est sous terre s'enfonce de plus en plus sous terre pour que la parole le fasse de plus en plus émerger. Hein? L'air. Pas la lumière, mais à l'air. Bon. Oui, je dirais que tout ce cinéma, lui aussi, pose l'espace vide comme la forme du déterminable et la parole comme la forme de la détermination. Si bien que le rapport de Foucault avec ce nouveau cinéma me paraît pas du tout un rapport d'influence. Je crois qu'il y a eu influence dans aucun des deux sens. C'est pas Foucault qui influence Duras ou Cyberberg, mais c'est pas non plus Duras et Cyberberg qui influencent Foucault. Chacun est parvenu à ce type par ses propres recherches. Voilà. D'où alors, maintenant, on se trouve devant la quatrième chose, et quelle est la réponse propre à Foucault? Donc on vient de voir un début de réponse. Hein. Le début de réponse qu'on vient de voir, il me semble même la réponse complète. Mais je ne suis pas sûr que ce soit celle de Foucault, je suis même sûr que ce n'est pas celle de Foucault, c'est exactement ceci. C'est forcément le non-rapport engendre un rapport. Et pourquoi? Comment? Le non-rapport engendre un rapport parce que la parole et la vue, en tant que sans rapport, atteignent chacune à sa propre limite. Mais la limite propre à chacune, c'est aussi la limite commune qui les sépare. C'est la limite commune qui les sépare et qui les rapporte l'un à l'autre en les séparant. C'est le cycle des Straub. La limite propre à chaque faculté est en même temps la limite commune qui les rapporte l'un à l'autre en les séparant. Ben, je vais vous dire, ce serait pour ce problème, ce serait ma réponse. Je irais tout à fait là. Le fait est que, à mon avis, on peut l'appliquer ça à Foucault. Ce serait un peu inexact parce que je crois qu'il a une autre réponse. Il a une autre réponse. D'où la nécessité de la quatrième et dernière confrontation. Il a une autre réponse qu'il va beaucoup plus chercher du côté de Raymond Roussel, le poète bizarre du début du XXe siècle. Et bien plus, Raymond Roussel lui fournit, non pas des réponses, mais lui fournit plusieurs éléments de réponse. D'où nous en sommes à cela. Confrontation avec Roussel et quelle est la réponse propre à Foucault quant à ce problème? Quel rapport y a-t-il entre parler et voir? Ce que nous ferons la prochaine fois.